Alors, le titre du message, les histoires d'amour finissent mal en général, mais pas toutes. C'est pas une verset biblique, hein. C'est en fait une citation d'une chanson que certaines connaissent peut-être parce que ça date des années 80. Les histoires d'amour finissent mal en général, mais pas toutes. Et notre histoire d'aujourd'hui. Juste pour vous donner donc les repères, on va parcourir un certain nombre de passages. En fait, on va regarder une personne, on va faire un petit profil de quelqu'un dans la Bible. Donc ça se trouve en 1 Samuel 18 et 19. C'est là on va se pencher dans la première partie. Et deuxième partie, c'est 2 Samuel 3 et 6. Donc ça se trouve là-dedans. L'histoire de ce message se déroule dans le contexte de la transition de pouvoir entre Saoul, le roi Saoul, premier roi d'Israël, et David, et le conflit qui en résulte entre ces deux maisons. C'est une longue histoire, long conflit, on va pas tout faire, bien évidemment. Il y a une femme et un amour qui se retrouvent au milieu de ce conflit, d'accord? Et la femme, elle s'appelle Michal, d'accord? Je sais pas comment ça se prononce, mais il y a différentes manières d'écrire son nom. Je vais l'appeler Michal, donc c'est la première femme de David. 1 Samuel 18, commençons en verset 6. Et là, je vais lire dans une version de la Bible un français courant pour la narration, pour les histoires. C'est bien d'avoir un tel texte. Vous pouvez regarder dans d'autres types de textes, mais là, juste pour vous avertir, tout est dans la Bible en français courant. Après que David eut tué le Philistin Goliath, des femmes de toutes les villes israélites vinrent à la rencontre du roi Saoul. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins, des cymbales, en poussant des cris de joie. Elles proclamaient joyeusement « Saoul a battu des milliers d'ennemis, David en a battu des dizaines de milliers. » Saoul fut agacé, irrité même par ce chant. Il se disait « On lui accorde 10 fois plus qu'à moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. » Dès ce moment, il regarda David avec jalousie. Donc on est dans ce contexte qui démarre là, après la mort de Goliath. Il y a déjà la tension entre David et Saoul. Et donc, Saoul essaie de tuer David. C'est son but maintenant. Saoul se dit, je ne veux pas me débarrasser moi-même de David. Ce sont les Philistins qui s'en chargeront. Il adressa donc à David et lui dit, voici ma fille aînée, Merab. Je la donnerai pour épouse si tu te montres vaillant à mon service en participant aux guerres du Seigneur. Alors David répond, mais moi, je ne suis rien. Ma famille, le clan de mon père n'est rien en Israël. Il vient d'une famille modeste. Comment pourrais-je devenir le gendre du roi? Donc déjà, Saoul est en train de manipuler la situation. David n'est pas très certain des intentions ni de sa place. Et ce premier mariage proposé à David ne se fait finalement pas. Saoul propose sa première fille. Au moment où Saoul doit donner Merab pour épouse à David, il accorde au contraire à Adriel, un autre homme. Donc il a proposé, puis pouf, il donne à quelqu'un d'autre. Ainsi, Saul renonce à donner sa première fille à David, et ceci est un véritable camouflet pour David, n'est-ce pas? C'est pas forcément très gentil de proposer sa fille en mariage et puis oups, non, c'était une blague. Alors c'est à ce moment-là qu'entre en scène Michal. Alors, qui est Michal? Bien, elle était le fille du roi, fille du roi Saoul, certainement habituée à un traitement de fille de roi, parce que Saul avait déjà régné à un certain moment, c'est pendant toute sa jeunesse de jeune fille, elle est dans la maison du roi. Et elle est certainement impressionnée par David. David est avec raison, à cause de tous ses exploits, tous ses talents. Et elle est proche de David, c'est-à-dire elle est proche physiquement de David, parce que David serve dans la maison du roi. Vous savez, donc David était joué de la harpe pour Saoul. Il portait ses armes. Donc David était dans la maison et son grand ami, le grand ami de David, c'était son frère Jonathan. Donc il y a une proximité déjà entre eux. Et donc là, on arrive à le rapprochement entre Michal et David, l'amour et le mariage. Et le texte continue en disant, cependant, Michal, l'autre fille de Saoul, donc après ce premier proposition de mariage avec la fille aînée qui était retirée, cependant, Michal, l'autre fille de Saoul, tomba amoureuse de David. C'est ce que le texte dit. Le texte dit, Michal, fille de Saoul, aimait David. Elle aimait David. Et un commentateur dit que c'est le seul endroit dans l'Ancien Testament ou dans le Torah où il était écrit qu'une femme, en l'occurrence Michal, aimait un homme, en l'occurrence David. C'est le seul endroit où on a ce phrase. Lorsqu'on a annoncé cette nouvelle à Saoul, il en fut satisfait. Il se dit en effet, je lui accorderai Michal comme épouse, et elle sera un piège pour le faire tomber entre les mains des Philistins. Le conflit est là, Saoul souhaite tuer David, et donc il voit en cela une occasion de le piéger. Ainsi, à deux reprises, Saoul propose à David de devenir son gendre. Il insiste. Après un premier camouflet, peut-être que David ne fait pas trop confiance à Saoul. On ne sait pas. Puis Saoul donna cet ordre à ses ministres. Parlez discrètement à David, dites-lui, le roi t'apprécie et nous, ses ministres, nous t'aimons. Accepte donc maintenant de devenir le gendre du roi. David leur dit, croyez-vous que ce soit une petite affaire pour moi de devenir le gendre du roi alors que je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant? Donc il revient sur sa position vis-à-vis du roi, certainement avec un peu de méfiance dans son propos. Les ministres rapportèrent au roi ce que David avait répondu. « Eh bien, déclara Saoul, dites-lui ceci, le roi ne désire comme cadeau de mariage que 100 prépuces des Philistins pour tirer vengeance de ses ennemis. » Saul comptait bien que David tomberait ainsi entre les mains des Philistins. Donc, cadeau de mariage. Bon, quel cadeau de mariage proposé? C'est pas habituel de nos jours. Et en même temps, là, le but est là de Saül de piéger David parce qu'il pense qu'il va pas pouvoir apporter le cadeau de mariage. Et donc avec cette proposition, Saul pense manipuler David, l'envoyer à la guerre et le faire tuer. Et donc le piège est mis en place. Mais pensez aussi à notre personne principale d'aujourd'hui, à Michal. Un piège qui est également tout à fait sans considération pour le cœur de sa propre fille. Voyez tellement que c'est tordu cette proposition. Les ministres rapportant ces paroles à David, celui-ci accepta la condition pour devenir le gendre du roi. La motivation de David pour accepter n'est pas indiquée dans le texte. C'était l'amour de Michal, peut-être. Envie de faire partie de la famille royale, peut-être. Un défi de taille, parce que c'était un guerrier, quelqu'un qui fonçait, qui faisait des choses. Peut-être il voyait en cela un défi pour avoir encore de la gloire. Avant la fin du délai fixé par le roi, David et ses hommes étaient partis au combat et avaient tué 200 Philistins. David rapporta leur prépuce et les fit compter en présence de Saül afin de devenir son gendre. J'ai mis entre parenthèses, là, il arrive avec le cadeau de mariage et Saül, tac, tu me fais un défi, moi j'arrive avec le double. Pas 100, mais 200. Imaginez la tête du roi Saül à ce moment-là, qui attendait la nouvelle de la mort de David. Et ce brave jeune homme, adoré par tous, sera encore plus adoré. Et en plus, Saül est dans l'obligation maintenant de lui donner sa fille. Alors le roi lui accorda sa fille Michal en mariage. Saul devient le beau-père de David. David, son gendre, avec la possibilité d'avoir un fils héritier de la lignée du roi. Vous voyez toutes les implications de ce mariage. Lorsque Saül comprit que le Seigneur était avec David et que Michal, sa propre fille, l'aimait, il avait fait ce constat. Manipulateur, il avait fait ce constat, il fait des choses qu'il fait quand même, c'est quand même tordu. Michal, sa propre fille, l'aimait, sa crainte à l'égard de David augmenta encore et sa haine envers lui devint définitive. C'était là, enraciné jusqu'au bout. Alors David et Michal se sont mariés, et Michal l'aimait véritablement. Elle le montre dans l'épisode suivant. Saül, en revanche, le roi du mauvais, je dis qu'il est le roi du mauvais jugement, est rempli de peur et de haine. On passe à la rupture. Et j'ai donné comme petit sous-titre l'extravagance de l'amour, ce que nous allons voir dans la vie de cette jeune femme à ce moment de sa vie. Les guerres avec les Philistins ont repris. David partit combattre les Philistins et leur infligea une telle défaite qu'ils s'enfuirent devant lui. Un jour, l'esprit mauvais envoyé par le Seigneur s'empara de Saül, alors qu'il était chez lui, sa lance à la main. David était en train de jouer de la lyre. D'un coup de lance, Saul tenta de clouer David au mur, mais David s'écarta et la lance se plantait dans le mur. David put s'échapper sain et sauf cette nuit-là. Puis, Saül, toujours avec son but, envoya des gens surveiller la maison de David afin de le mettre à mort au matin. Toujours dans ses combines. Mais Michal, la femme de David, l'en informa. Elle lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. Michal lui avertit du fait qu'il va être tué. Elle le fit descendre par la fenêtre et il s'enfuit pour sauver sa vie. Ensuite, elle prit les statuettes de divinité et les plaça dans le lit de David. Elle mit une étoffe noire en poil de chèvre à la tête du lit et couvrit les statuettes avec une couverture. Lorsque les envoyés de Saül vinrent arrêter David, Michal leur dit, il est malade. Donc, elle achète du temps pour David qui est en train de partir. Et les hommes de Saül sont repartis bredouilles. Saul, furieux, les renvoya voir David et leur dit, ramenez-le-moi dans son lit afin que je le mette à mort. Il est vraiment pas content. Les envoyés du roi y retournèrent. il ne trouve que les statuettes dans le lit. Et cette fois-ci, c'est Michal, cette femme qui aime David, qui doit répondre pour ses actes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, Saül questionna Michal. « Pourquoi m'as-tu trempé de cette manière? Pourquoi as-tu laissé mon ennemi s'échapper ?» Michal répondit, « Il m'a menacé de me tuer si je ne laissais pas partir. » Mensonge. Deux fois mensonge. Bon, ça peut me remettre en question son caractère quelque part, mais tu vois la motivation, vous voyez la motivation de cette jeune femme. Donc il y a rupture, séparation. Dans cette rupture certainement cruelle pour Michal, qui aimait David, et pour David, Michal joue le premier rôle dans cette scène. Si vous lisez le texte, c'est elle qui sauve David. Elle le sort par la fenêtre. Elle imagine le plan consistant à mettre une statue dans le lit. Elle ment pour lui. Il est malade. Pour renvoyer les hommes de Saül. Elle ment à son propre père, qui, en l'occurrence, est le roi. C'est une proposition risquée. On connaît l'histoire d'Esther. C'est une proposition risquée de mentir au souverain. Elle aime David. David est sauvé par l'amour, sauvé par un amour prêt à tout pour que le bien-aimé puisse être saint et sauf. Elle a pris des risques ce soir-là. Alors j'ai juste une petite histoire personnelle qui date de la semaine dernière aux États-Unis où se trouve notre plus grande fille Emma qui a un copain depuis un moment et qui aime son copain. Bon, la semaine dernière il y avait des tempêtes de neige mais terribles dans l'Ohio et elle nous racontait un peu avec, elle osait presque ne pas le dire, mais toutes les écoles et toutes les entreprises, etc., même les routes, etc., ils étaient en train de tout fermer pour le week-end. Mais elle avait envie d'être avec son copain. Et donc il y a tout cette tempête de neige, les routes sont verglacées, de la neige partout, etc. Elle a fait la chose qui aurait pu être dangereuse. Elle a conduit 30-40 minutes dans cette tempête pour être avec lui. Alors, pour vous, dans votre vie, quand il y a des couples qui sont là, est-ce que vous avez des moments vous-même de ce truc fou que vous avez fait pour l'autre? Ce moment où vous avez fait quelque chose d'extravagant peut-être que vous ne deviez pas faire. C'est d'une telle extravagance ici dans l'amour que Michal montre pour David. Puis s'installe dans l'histoire un silence. Le narrateur, il y a des choses qui passe sous silence. Il n'a pas eu de suite de l'histoire où David, avec toute sa bravoure, revient pour reprendre sa toute première épouse. Il est en fuite, mais il prend pas le risque pour revenir. David reste un fugitif. Il reste un fugitif tellement longtemps que d'autres événements importants ont lieu. Des événements probablement consternants pour Michal, qui aimait David. Première chose, David prend une deuxième femme en mariage, Ahinoam de Jisréel. On ne précise pas le moment du mariage, mais c'est certainement pas longtemps après, il est en fuite. Puis David prend une troisième femme en mariage, Abigail. Le texte de la Bible dit qu'elle est intelligente et belle. Puis, puisque David est parti et il ne revient pas parce que Saül veut le tuer, Saül donne Michal en mariage à un autre homme. Saül prend sa fille, mariée avec David qui est en fuite, et il donne à un autre homme qui s'appelle Paltiel. Michael n'a pas le choix. Qu'elle le veuille ou non, elle doit se marier avec Paltiel. Et donc elle est encore sujet de manipulation par son père. Et ceci prive en quelque sorte ce lien entre possible héritier du roi en donnant Michael à un autre homme. Puis David a un fils de la deuxième épouse qui s'appelle Amnon, puis un fils d'Abigail qui s'appelle Daniel. Donc vous imaginez Michael, si elle apprend ces nouvelles des enfants de David. Or, c'était elle, la première épouse. Puis David épouse encore 4 femmes. Et puis il a encore 4 fils de plus pendant cette période. Disons que David est occupé. Il a de quoi oublier Michal. Et donc je résume un peu cette première partie de la vie de Michal, jeune fille du roi, émerveillée par ce jeune homme David, marié et puis cruellement séparé. Michal aime David, Michal s'est marié avec lui, son premier amour, ils vivent ensemble, mais la vie les sépare de façon cruelle. David n'est pas revenu, David épouse d'autres femmes. Michal est obligé de se marier avec un autre homme. David et ses autres femmes ont des enfants. Michal n'en a pas. Pendant une bonne dizaine d'années, Michal ne revoit pas David. Et donc la vie de cette jeune femme qui est amoureuse de David s'enchaîne de nombreux événements qui pourraient la laisser avec un grand sentiment de regret, d'injustice et de l'amertume. Elle est la fille du roi, d'abord elle est la fille du roi mariée avec le jeune homme le plus admiré du pays, puis tout se met à tourner au vinaigre. Pire encore, elle va redevenir un pion politique dans le match de boxe entre la maison de Saoul et la maison de David. C'est la réunification forcée. C'est une espèce de deal là entre les deux maisons, et c'est peut-être la ruine de l'amour entre David et Michal. Et donc plus de 10 ans après la séparation de Michal et David, Abner, chef militaire de la maison de Saoul, donc on est de nouveau dans le contexte du conflit entre David et Saoul, Abner se rallie à David. Et on ne va pas se pencher sur les pourquoi, mais c'est une espèce de trahison, un retournement de situation politique. C'est Eric Woerth qui quitte les LR pour se rejoindre à En Marche. C'est un truc du genre. Abner envoyait des messagers à David pour lui dire « À qui appartient le pays ? Conclue une alliance avec moi et je t'aiderai à rallier tout l'Israël autour de toi. » Donc à ce moment-là, il y a une séparation entre Juda et Israël. David, qui est roi à Hébron, donc dans le sud, et Abner, après la mort de Saoul, qui est le roi dans le nord. David lui répondit, « Bien, je suis d'accord de conclure une alliance avec toi. Je ne te demande qu'une chose. » Pour faire alliance. Ne viens pas me trouver sans te faire précéder par ma femme Michal. C'est sa demande. La fille de Saoul. À cette condition, tu pourras te présenter devant moi. Puis David envoie des messagers à Ish-Pochet, je sais pas comment on prononce ça, fils de Saoul, pour lui dire, « Rends-moi ma femme, Michal, que j'ai épousée au prix de 100 prépuces philistins. » Alors Ish-Pochet fit venir Michal de chez son mari Paltiel. encore Michal, elle se retrouve dans la position de pion politique. Elle est, on parle de dizaines d'années qu'elle est avec son deuxième mari et on l'arrache. David la demande, ma femme. Ici, il ne faut pas prendre cette demande de David comme un acte d'amour envers Michal. C'est plutôt une manœuvre politique, une revanche à prendre. David réclame ce qui lui est dû. Après tout, il a payé pour elle au prix des combats contre les Philistins. Alors dans cette lutte de pouvoir, Michal est dans l'obligation de quitter sa maison, abandonne son deuxième mari pour aller vivre de nouveau avec David. David qui a vécu tant de mauvaises expériences à cause de son père, toujours en conflit. David qui a été forcé de fuir et qui a refait sa vie, entre guillemets, avec d'autres femmes. C'est la circonstance de cette réunification forcée. Juste un tout petit mot sur cet homme qui s'appelle Paltiel. Donc Paltiel, il a eu le faveur du roi Saoul et Saoul lui a donné Michal en épouse après que David est parti. Donc il est du côté de la maison de Saoul, d'accord ? Il a son épouse et puis une dizaine d'années, on n'a pas le nombre exact d'années. On lui prend son épouse comme ça parce que David la demande. Et dans l'échange, ça se fait de cette manière. Alors, et c'est quand même triste, imaginez le cas de cet homme. On voit peut-être par sa réaction que lui aussi, il aimait son épouse. Paltiel accompagne Michal dans son voyage de retour vers David, de longues kilomètres. Tout en pleurs, dit le texte, il marcha derrière elle jusqu'à Bahurim. Là, Abner lui ordonna de retourner chez lui et il obéit. C'est fou, hein? Tout en pleurs, il sait que c'est fini. Il n'y a plus de femmes, plus d'épouses. Pourquoi il pleure? Bon, il pleure parce que sa femme passe des côtés des ennemis du roi, peut-être. Il pleure car il perd son épouse, très probablement. En tout cas, il pleure. Il est triste. Et cet événement, le fait que David réclame son épouse, Michal, c'est la première fois où David sépare deux époux. C'est pas la dernière. Pour Michal, le fait d'être arraché à son deuxième mari est peut-être la goutte qui fait déborder le vase. C'est peut-être l'événement de trop dans sa vie sentimentale. Alors on passe à... Là, on va changer... De chapitre, la répugnance, le mépris de l'amour. Et on voit ici encore une période de vie entre David et Michal qui est passée sous silence par l'auteur des livres de Samuel. Il y a des détails qu'on aimerait avoir qui sont manquants. Où est l'histoire des retrouvailles entre David et Michal? On a la demande, on sait qu'elle est envoyée, mais rien d'autre. Cela s'est passé comment? On ne sait pas. La prochaine fois qu'on retrouve Michal, c'est à une fenêtre à Jérusalem pour voir avec les foules l'entrée du roi David et de son armée à la tête d'un défilé au contour politique, militaire et religieux. David et tout le peuple d'Israël fête le retour de l'arche de l'Alliance à Jérusalem après les décennies de l'absence de l'arche. Et le prochain passage, donc c'est en 2 Samuel 6. Et alors, c'est peut-être ce passage qu'on connaît le plus quand on pense de Michaël. Et c'est un peu la raison pour laquelle, pour moi-même, je voulais recadrer un peu son histoire. Il faut du contexte, peut-être, pour comprendre la réaction de cette femme à ce moment-là. Alors, c'est l'entrée, c'est David devient, après 7 ans et demi de roi à Hébron, dans le sud, et puis le fait qu'il fait cet échange, et Abner lui donne Israël, tout Israël en plus, David devient le roi de tout Israël, et il ramène l'arche à Jérusalem. Donc c'est le grand moment, un grand moment de vie pour David. C'est le summum ici. On arrive à réunir Israël et ramener l'arche dans la ville sainte, avoir la présence de Dieu. Et donc c'est un truc énorme pour le peuple d'Israël. Alors David se rendit chez Obed-Edom pour en faire apporter l'arche de l'Alliance à la cité de David dans un joyeux cortège. Lorsque les porteurs du coffre eurent avancé six pas, David sacrifia un taureau et un veau gras, tous les six pas des sacrifices. Puis il se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement du pagne de lin des prêtres. David et les Israélites emportèrent l'arche du Seigneur à Jérusalem, au milieu des cris de joie et des sons de trompette. Au moment où l'arche arriva dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et elle vit le roi David danser et tournoyer devant le Seigneur. Ils étaient de nouveau ensemble, parce qu'elle a été reprise de son deuxième mari. Et là, David entre avec l'arche. C'est la fête! Je sais pas si vous vous rappelez du moment, enfin moi j'aime bien le foot, vous savez. Et quand la France a gagné pour la deuxième fois la Coupe du Monde, les Champs-Élysées, le bus des joueurs, les foules qui sont là, c'est la fête. On est dans une fête différente, plus grande, mais c'est la fête. Alors David ramène l'arche, et dans ce message, je ne vais pas développer l'importance quand même de la signification de cet événement. Elles sont grandes. Disons seulement que l'arche était le symbole de la sainte présence de Dieu avec son peuple. Et en le ramenant, David restaure la présence de Dieu en tout Israël réuni. Et il est le roi maintenant de tout le peuple d'Israël. Mais on va rester focalisé sur Michal. Et on va re-regarder à la fenêtre où elle se trouve, au-dessus de cette foule qui est en train de célébrer cet événement. Michal éprouva un profond mépris pour David. C'est contraste total avec ce qui se passe autour. Michal éprouve un mépris profond pour lui. On vint déposer l'arche à la place qui lui était réservée dans la tente que David avait fait dresser pour lui. Ensuite, David offrit au Seigneur des sacrifices. Quand il eut achevé de les offrir, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Il fit distribuer des vivres à toute la foule des Israélites. Chaque homme et chaque femme reçut une galette de pain et un gâteau de dattes et un gâteau de raisin sec. c'est la fête. Et alors, Michal éprouve un profond mépris pour David. Quel contraste avec les premiers sentiments que Michal a eu pour David. Michal aimait David. beaucoup d'eau s'est écoulée sous les ponts depuis ce temps-là. D'autres versions de la Bible traduisent cette phrase ou cette idée de mépris comme « elle a détesté David à ce moment-là ». Pourquoi ce mépris? David était le roi. Elle était la fille d'un roi. Elle avait une idée bien précise de la façon dont un roi devait se comporter. Et David a laissé ses vêtements de roi pour être vêtu juste du linge en lin des prêtres. Donc, dans un certain sens, pour elle, c'était pas ça, c'est une chose qui n'était pas appropriée. Puis certainement, en dehors de cette chose-là, la manière que David s'est laissé aller, disons, devant le Seigneur, et la manière dont il était habillé, certainement l'accumulation de mauvais virages dans sa vie liés au match entre sa famille et celle de David a influencé son regard à ce moment-là. Elle n'est plus la jeune fille naïve et émerveillée avant son premier mariage. Elle a vécu maintes souffrances au fil des années. Puis, ça s'empire. Je pense que c'est le dernier ici. Tout ça s'empire. Il vient un conflit. On est dans la fête. David est là pour célébrer. Elle regarde avec son mépris. Il y a une scène de ménage qui va gâcher ce jour de fête qui est noté dans le texte. Après toute la joie et les festivités, David rentre chez lui avec l'intention de bénir les siens. Il vient de bénir les foules. Maintenant, il veut faire ça à la maison. Il a béni le peuple. Et maintenant, David, et on voit dans ce qu'il fait ce jour-là, ce rôle de roi prêtre qu'on trouve ailleurs dans la Bible avec Melchizedek, ou bien sûr avec Jésus, il est dans ce rôle de roi prêtre. Il veut rentrer à la maison et bénir sa famille. Mais la réception à la maison n'est pas forcément ce qu'il attendait. Michal sort au-devant de lui et lui dit qu'il était glorieux aujourd'hui, le roi d'Israël, lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes et les serviteurs, à moitié nu comme le ferait un homme de rien. Ouf ! Amer, amertume, mauvaise parole. Pour mieux comprendre Michal, c'est peut-être toutes les années de tristesse et de changement qu'elle a traversé au milieu de cette transition de pouvoir entre Saoul et David qui sortent dans cette seule phrase sarcastique. C'est chargé d'émotion, ce qu'elle dit. Qu'il était glorieux aujourd'hui, le roi. Même si elle rate l'importance du moment, elle est un être humain. Au milieu de son histoire, elle n'a pas notre recul sur cette histoire. Elle n'a pas non plus le recul de Dieu et de son plan à ce moment-là. L'amour de Michal envers David est imparfait. L'amour de Michal envers David est défaillant à ce moment-là. Écoute la réponse de David par la suite. David lui répondit, il se justifie de son acte, avec raison. Peut-être pas avec la manière, on entend par les paroles, mais écoutez. C'est en l'honneur du Seigneur que j'ai agi ainsi. Lui m'a choisi de préférence à ton père et toute sa famille. Ok, c'est ma famille et ta famille. Donc vous voyez le conflit de famille qui revient dans la phrase, qui est vrai ce qu'il dit. Lui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille. Tac. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je le dis. Je ne sais pas si c'est présent dans ce, dans son, dans son intention, mais je ne sais pas. Pour faire de moi le chef d'Israël, son peuple, et je manifesterai encore ma joie en son honneur. Je m'abaisserai, j'humilierai encore plus à mes propres yeux, mais c'est ainsi que je serai glorieux, même pour les servantes dont tu parlais. C'est certainement un peu chaud, cet échange. Quand on voit la suite, on peut imaginer cela. Même si nous sommes d'accord avec David sur l'importance de ce qu'il vient de faire et de dire, c'est énorme, ce moment de la vie de David. Qu'on doit honorer le Seigneur de tout son être entier et que cela se manifeste légitimement par cette exubérance et que notre gloire est de nous humilier et de nous prosterner devant Dieu. Tout ça, c'est vrai. Même si nous sommes d'accord avec David sur ces choses capitales, en même temps, la manière dont David traite Michal est loin d'être exemplaire. L'auteur de Samuel ne met pas en question le fait crucial de l'élection divine de David en tant que roi d'Israël, mais les droits théologiques de sa situation ne justifient pas les mots domestiques. Mots M-A-O-U-X. Et il se peut qu'à ce moment-là, le monarque béni d'Israël agisse en tant que mari insensible auprès d'une femme qu'il aime, qu'il a aimée et qui lui a sauvé la vie. L'amour de David envers Michal est imparfait, voire différent. Le rejet, la fin de l'amour. Est-ce que c'était la fin de l'amour? On n'a pas tous les détails, mais c'est le dernier verset qui va nous dire quelque chose. L'amour de David envers Michal est tellement imparfait que, et le dernier verset dit, Michal, fille de Saoul, n'a pas d'enfant jusqu'à sa mort. Donc on a cet échange, conflit entre les deux, le mépris, sa réponse, qui justifie de quelle manière on n'a pas entendu sa voix. Le fait que Michal n'a pas pu avoir d'enfant étant de nouveau avec David, elle était arrachée de son deuxième mari, elle est revenue vers David, mais elle n'a pas pu avoir d'enfant. Ça pourrait signifier tout simplement qu'elle n'a pas pu concevoir, pas pu avoir d'enfant. Ça peut rester là. Certains suggèrent que parce qu'elle a méprisé David, l'élu de Dieu, elle a critiqué pour ses actes, que c'était une punition de Dieu. C'est une suggestion de certains commentateurs. Ou cela pourrait dire, suite à cette réception moins que chaleureuse au palais familial, que le clap de fin de leur relation en tant que couple a sonné. Plus de relation entre eux. C'est-à-dire juste une séparation, c'est la fin de l'histoire. Et donc, plus de relation entre eux, ça veut dire pas d'enfant. Voilà. Et pas important dans cette histoire, pas d'héritier non plus venant de la lignée de Saoul. Voilà. Là, c'était encore un coup plus dur pour Michal. Car à l'époque, ne pas pouvoir avoir des enfants était une honte. Et pour une reine censée de faire continuer la lignée, c'était une double honte. Les histoires d'amour finissent mal, en général. C'est pas une citation de la Bible, c'est une chanson. Et cette relation-là a fini mal. L'amour humain est entaché par notre péché. Et on arrive à la rescousse. L'amour humain est entaché par notre péché et donc parfois compliqué, n'est-ce pas? Parfois loin d'être entier. L'amour de David et l'amour de Michal démontrent l'imperfection dans l'amour. Puis en plus, on était au temps des rois. Les choses étaient différentes. Il y a cette question de polygamie. Enfin, il y a tout un tas de choses qui jouent, qui est différent de notre époque. Il n'avait pas encore eu un exemple d'un humain qui savait vivre l'amour parfait envers les autres. Puis, un autre, cette personne, P majuscule, est venue pour montrer ce que c'est d'aimer parfaitement. Pour montrer que l'amour est de se donner pour les autres. Que l'amour parfois est à son comble implique le sacrifice. Celui-là a montré l'exemple et a placé la barre au plus haut point pour ceux qui souhaitent suivre dans ses pas. Mais encore un autre est venu pour nous assister dans notre recherche pour pratiquer l'amour comme l'Emmanuel, Dieu est avec nous, a fait. Lui, il nous rappelle ceci. L'amour à la rescousse. L'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien d'honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, l'amour fait grâce, il garde la foi. Il espère, il persévère. À cause de celui qui est venu exprimer le grand amour envers nous, et avec l'assistance de celui qui vit en nous, nous pouvons tendre à, nous sommes appelés à tendre à une pratique de l'amour qui soit caractérisée par la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Moi, je sais que vos amours, votre manière de pratiquer l'amour est imparfait. Les miens aussi, ma pratique de l'amour est aussi imparfaite. Mais je sais aussi que Dieu lui-même, dans son essence, est caractérisé par un amour sans faute qui souhaite qu'on imite et qu'on expérimente dans cette vie et dans celle d'après. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, aimer les uns les autres. Ma prière pour vous ce matin est que toutes vos histoires d'amour finissent, en général, bien.